Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche qui aujourd'hui aura pour titre les guets, les passerelles, les ponts et les viaducs jadis en Basse Marche. Ce sera notre 288e émission et notre 185e chronique. Pour les textes, j'ai fait appel à l'ouvrage de Jacqueline Lombois, Les ponts en Limousin, au bulletin du Dolmen Club de Bellac de 1907, à un article de Germaine Barito dans le bulletin de la Société d'ethnographie du Limousin et de la Marche consacré aux vieilles coutumes de la Basse Marche, à l'ouvrage de Daniel Arnaud, guide des richesses artistiques de la Haute-Vienne, à l'enquête du préfet Texier Olivier de 1808 concernant la Haute-Vienne, à l'histoire du chemin de fer en Limousin de Claude Lacan, à Belle-France de Charles Sylvestre et à l'ouvrage La Basse Marche de tous les temps.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
En guise d'introduction, je vais d'abord vous lire un extrait du bulletin du Dolmen Club de Bellac de l'année 1907 concernant les ponts de Bellac. Pour compléter le rapide coup d'œil de l'ancienne capitale de la Basse Marche, nous ferons l'énumération des ponts qui ont existé ou qui sont encore debout. Les plus récents et les plus confortables dont nous nous contenterons de donner les noms sont jetés l'un sur le Vincoux, près du Poisson d'Avril, les deux autres sur la Basine, soit route de Limoges, près du Berceau, soit au pied de la côte de Saint-Sauveur. Le pont de la Pierre, à Dodane, reliant Chapterie à Bellac, est le plus intéressant avec ses refuges pour piétons, trois de chaque côté, et se faisant face, ceux d'amont à forme angulaire et ceux d'aval à forme carrée. Les trois arches, dont celle du milieu est la plus large, sont en tiers-point. Une délibération du corps municipal en date du 22 pluviose en 9 nous apprend qu'il y avait alors un besoin d'urgente réparation et le document dont il s'agit spécifie surtout la dernière arcade. Pont très important, y est-il dit, car c'est par cette voie qu'arrivent à Bellac les habitants de Saint-Junien, de Rochechouart, de Mortemar, les Blondiaux, etc. Le pont de la Pierre est fort étroit, il est pour ainsi dire composé de chaussées sans trottoir, de là la nécessité de la construction des refuges signalés ci-dessus. La passerelle près de la fonderie Garceau doit correspondre au pont dit de la Forge de Fer dans les vieux titres. Cette usine a disparu pour faire place sans doute à la fonderie en question. Le pont de Géroux, mentionné dans les titres anciens, mais non sous sa forme primitive, il est jeté sur un petit ruisseau tributaire de la Basine dans la traverse de la route de Limoges après l'embranchement de Saint-Julien-les-Combes. Quant au pont d'Aubroche, une délibération du 27 pluviose en 10 nous apprend qu'il était écroulé et interrompt ainsi la communication de la ville avec ce que l'on appelle le fort. C'est la partie la plus populeuse et où se trouve l'édifice servant au culte et le cimetière. On prend aussitôt des mesures pour sa réfection. Un dernier pont que les archives mentionnent est dit des tanneries. Il n'y a plus que les vestiges de ces piles dont le lit du Vincoux et le pont actuel des tanneries qui le remplace est un peu plus bas et constitue une fort belle construction. Si on ajoute à cette énumération quelques autres passerelles, les ponts du chemin de fer ou du tram, on a là un panel assez complet des ponts de la Basse Marche. Nous allons maintenant nous intéresser aux guets. La meilleure façon de franchir un obstacle, écrit Jacqueline Lombois dans son ouvrage « Les ponts en Limousin », c'est de l'éviter. C'est pourquoi les premières routes, les pouges celtiques, étaient des cheminements sur les hauteurs dont le tracé évitait la traversée des ruisseaux et des rivières. Quand on ne pouvait pas éviter de traverser une rivière, on traversait à gué, c'est-à-dire dans un endroit peu ou très peu profond. On peut penser que la cartographie des gués a d'abord été tracée par les troupeaux, imitée ensuite par l'homme. Mais le gué est mal commode. Il faut se mouiller et même, selon la profondeur ou la saison, risquer d'être emporté ou de voir les bêtes emportées par le courant. Parfois donc, on aménageait les gués en posant des pierres plates dans le lit de la rivière ou du ruisseau. Il arrive encore que l'on utilise des bacs pour franchir la rivière, et encore au XXe siècle, comme au pont Saint-Martin à Saint-Bonnet-de-Bellac, au pont de l'Anneau à Peyrat-de-Bellac, ou peut-être aussi au vieux pont de Blanzac. Dans son étude sur les vieilles coutumes de la Basse-Marche, Germaine Bariteau parle de ces passages à gué. Celui-ci se trouve près du moulin de la Bussière-Étable. À peu près tous les transports se faisaient à dos de mulets, écrit-elle. Il fallait bien aménager la carriole qui, d'autre part, obligeait à un parcours plus long et qui bien souvent se révélait bien trop grande pour quelques sacs à conduire. D'un côté du moulin, un chemin montant, rocailleux, de l'autre, la rivière, qu'on passait en barque pendant que les mulets, chargés, la traversaient à gué. Pauvres mulets en hiver. Après le passage dans l'eau glacée, leur ventre et leurs jambes ruisselantes se couvraient de glaçons qu'ils gardaient pendant tout le trajet. Mais malin mulet, lorsqu'il s'agissait de ficeler les sacs sur leur dos, de quelle technique ne fallait-il pas user pour les empêcher de mettre leur charge à terre ?
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Des gués aux planches. Un aménagement un peu plus élaboré des gués, ce sont les planches. Il s'agit, comme au moulin d'Ardan à Rancon, d'un aménagement rustique, ou parfois appareillé de pierres dressées dans l'eau pour faire office de piles sur lesquelles on pose des dalles de pierre, ou plus souvent des dalles de bois servant de tablier. À noter que cette technique a été conservée à travers les siècles, et il est donc difficile de dater ces ouvrages. Les constructions en pierre et en bois ont constitué la majorité des ouvrages ruraux. Jacqueline Lombois explique « Sous sa forme la plus simple, le modèle type de passerelle comportait deux culées en pierre sèche sur lesquelles était appuyé un tablier de poutre en bois. Ce modèle était donc relativement facile à construire. » Puisque appuyé sur les rives, en sa partie la moins durable, le tablier se remplaçait assez aisément. Mais il est aussi des passerelles avec de nombreuses piles de pierre, parfois très élaborées. On sait que notre pays de Basse-Marche fut longtemps et est sans doute encore enclavé. Tout au cours de l'histoire, l'obstacle, ce n'est pas seulement la construction des routes, c'est bien souvent le franchissement des rivières et des ruisseaux. Et pourtant, chez nous, il n'y a pas de grands fleuves. C'est le coût de la réalisation de ces ponts qui souvent fait obstacle. Tenez, la route de Poitiers passant par l'Odorat exigeait, je cite le préfet Texier-Olivier qui déclare en 1808, « Le passage de la Brame exige la construction d'un pont de 14 mètres de débouché. C'est à l'exécution de ce pont que tient une communication libre en tout temps entre le département de la Haute-Vienne et celui de la Vienne. En effet, la Brame cesse d'être guéable à la moindre crue. » De la même façon, il nous explique et qu'il n'y a rien de fait sur ce qu'il appelle la route de Poitiers à Guéret qui doit passer par Saint-Barban, le Dorat, Magnac-Laval, qui nécessiterait la construction d'un pont de 3 arches sur la Gartempe, de 2 arches sur les 2 branches de la Brame et 1 arche sur le ruisseau d'Aigues-Morte. Quant au chemin de grande communication de Bellac à Bénévent-l'Abbaye par Rancon, de Saint-Victurien-au-Blanc par Bellac, de Limoges-au-Blanc par Magnac-Laval, il faudra attendre la construction de nouveaux ponts au Chais sur la Brame, à Bessa sur la Gartempe, au pont Saint-Martin et à la Maillerie de la Croix sur Gartempe.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons maintenant nous intéresser au pont de pierre. L'histoire des ponts de pierre ne commence vraiment qu'avec la maîtrise de la voûte. Il semble bien que ce soit les Romains qui introduisent la technique de la voûte en Gaule, permettant ainsi de s'affranchir de la poutre en bois. La plupart des ponts de nos zones, y compris ceux baptisés ponts romains, comme à Château-Pont-Sac par exemple, sont des ponts médiévaux. Alors, nous allons nous intéresser à quelques-uns de ces ponts de pierre de notre zone. Sur la Gartempe, le pont des Bons Hommes à Bessines. Il semble dater du XIIIe siècle et doit son nom aux religieux de l'abbaye proche de Grandmont. Il est situé sur l'un des itinéraires antiques qui allait de Limoges à Argenton-sur-Creuse. Le tablier en dos d'âne repose sur 3 arches en berceau brisé et 2 piles. En amont, les piles sont renforcées d'avant-bec. À noter que chaque rive est équipée d'une culée oblique pour diriger le courant des eaux en cas de crue. Le pont dit romain de Château-Pont-Sac. En fait, ce pont est de construction, ou plutôt de reconstruction, relativement récente, sans doute au début du XVIIe siècle, sur les bases d'un pont construit au XIe siècle qui menaçait de s'écrouler. Et ce pont remplaçait lui-même un pont, sans doute de l'époque gallo-romaine, qui était en bois. Le pont de Rancon, dit encore le vieux pont, daté des XIe et XIIIe siècles, ses piles seraient peut-être celles d'un pont d'origine gallo-romaine. Il se trouvait sur la voie qui reliait Limoges à Argenton-sur-Creuse. Ses piles étaient en maçonnerie et le tablier probablement en bois. À noter que sur la rive droite de la Gartempe se trouve la pierre dite pierre du passeur, de forme cylindrique qui présente une profonde entaille. À l'origine, sans doute une borne routière gallo-romaine qui aurait servi d'attache au câble d'un hypothétique bac. Plus vraisemblablement, elle aurait servi d'ancrage aux barques qui servaient à extraire le sable de la rivière.
Au-dessous du pont, il y a des poissons nageant dans la rivière. Au-dessus du pont, il y a des oiseaux voletant dans l'air. Et puis sur le pont, juste assis sur le pont, il y a Marie et il y a Jean-Pierre qui parlent d'amour et de papillons se tenant la main sans en avoir l'air. Qui parlent d'amour.
Le pont de Blanzac. Il semble qu'une route du sel et du vin franchissait ici la Gartempe pour se rendre à Peyrat-Bellac. On aménagea d'abord un gué, puis un Peyrat. On traversait la rivière sur de grosses pierres et les animaux traversaient dans l'eau. Le Peyrat fut remplacé par un pont de piles maçonnées avec un tablier en bois qui permettait le passage des individus. Il deviendra ensuite un pont à arches maçonnées qui aboutira au pont médiéval des XIe, XIIe siècles, qui durera jusqu'à la fin du XIXe siècle avec ses 5 arches de taille inégale. Il fut ensuite réparé à la fin du XIXe siècle. Le pont de Bessa, à Saint-Ouen-sur-Gartempe, ce pont reliait autrefois Bellac et le Dorat. C'est un ouvrage gothique du XIIIe siècle. Il se compose de 4 arches, dont celle du milieu est en plein cintre et les 3 autres en arc brisé. Les piles sont très larges et le profil est en dos d'âne. Les éperons, pour leur part, présentent un angle aigu très brisant. En 1576, la compagnie de Monsieur de Messelière fit rompre le pont pour enrayer l'armée huguenote. C'est à cette période que l'arc en plein cintre fut reconstruit. Le pont Saint-Martin, à Saint-Bonnet-de-Bellac, le pont originel, est aujourd'hui disparu. À propos des ponts de la Gartempe, voici ce qu'écrivait Charles Sylvestre dans Belle France. Quelque temps, je m'attardais sur ce pont qui enjambe la Gartempe. Je voyais la truite saumonée traverser en fuseau l'eau noire et dorée. Elle tournait, montait dans la trame et s'abaissait comme une ombre et remontait vers les mouches qui dansaient en suivant le flot. L'insecte diaphane, l'éphémère que le seul rayon du printemps anime et nourrit, touchait-il à peine la surface, elle s'élevait puissamment et le happait. L'air était calme, on entendait de très loin le blouf d'un chevesne brutal et de temps à autre le cri étouffé du coucou. Quittant le bruit lumineux de l'eau courante qui fait si vite d'un homme un rêveur éveillé, je me hâtais vers Bellefond.
Grandes histoires de la basse marche.
Nous avons déjà en introduction cité les ponts de Bellac sur le Vincou, comme le pont de la Pierre, le pont de la Forge à Fer ou le pont des Tanneries. Nous allons maintenant traiter de quelques autres ponts du nord de la Haute-Vienne. Le pont du Chai sur la Brame, à la limite des communes de Dinsac et de la Bazeuge. C'est un ouvrage de style gothique des XIIIe et XIVe siècles. Situé à proximité d'un moulin aujourd'hui disparu, l'ouvrage s'étendait sur une cinquantaine de mètres. Aujourd'hui, il ne reste que 3 arches en arc légèrement brisées. Sa forme d'origine était en dos d'âne. Notons que l'ancien tablier ne subsiste pratiquement plus. Il ne comportait pas de refuge au droit des avant-becs. Le pont du Roi à Oradour-Saint-Genès ou le pont du Plan à Lussac-les-Églises sont tous les deux disparus. Le pont de la Barre à Dinsac, à proximité du moulin, enjambe la Brame. Il fut construit au XIIIe et XIVe siècle. Il possède 3 arches en plein cintre, avec une arche centrale plus large et plus haute. Les piles sont protégées par 2 avant-becs en amande. À noter que l'ancien tablier était en dos d'âne. On trouve un petit pont dit romain à une seule arche à Jouac, sur un affluent de la Benaise. D'autres ponts sont également dits romains. Par exemple, dans la commune de Saint-Léger-Magnazet, le pont de la Verrerie ou de la Verrière sur le ruisseau du Pinateau, aujourd'hui désaffecté. Il comportait 2 arches. Le pont du Puy Saint-Jean sur le ruisseau du Pou possède, lui, une seule arche. À noter encore parmi les ponts remarquables de notre zone, le pont du Guédou sur le Vincou près du Mail, dans la commune de Berneuil. Il possède 4 arches en plein cintre, sans parapet et sans avant-bec. Il daterait du XIIIe siècle. Et le pont du Courrieux sur la Couze, à Saint-Symphorien-sur-Couze, il possède 3 arches avec parapet.
En faire la guerre, pense ta Marie, qui est si jolie, ils sont malheureux comme d'autres avant eux. Au-dessous du pont, juste en dessous du pont, il n'y a plus rien, même plus de rivière. Au-dessus du pont, juste en dessous du pont, il n'y a plus rien.
L'arrivée du chemin de fer dans le nord de la Haute-Vienne va exiger la construction de nombreux ouvrages d'art, les viaducs ferroviaires. Le relief du Limousin, écrit Claude Lacan, s'il n'oppose pas un obstacle infranchissable à la construction de la ligne, nécessite l'édification d'ouvrages d'art importants et suppose des terrassements d'un volume considérable. Il faudra prévoir le majestueux viaduc de Rocherolles, enjambant la Gartan près de Bersac, avec ses deux rangs d'arcades juxtaposées qui fait passer la voie à 53 mètres au-dessus de la vallée. Pour cela, des milliers de travailleurs sont à pied d'œuvre, des baraquements s'élèvent, les charrettes défoncent la route et les chemins. Tous les corps de métier sont représentés, les gens du fer, ceux du bois et de la pierre, les terrassiers, les charrons, les bourreliers. L'intendance est présente avec les boulangers, les cuisiniers. Dans les grands parcs s'alignent les couples de bœufs, les mulets, les chevaux et les fours de campagne s'allument pour cuire le pain. On ouvre des carrières pour extraire de gros blocs de granit qui seront charroyés à grand renfort de cris, de claquements de fouet pour être taillés et façonnés. Un monde cosmopolite s'installe avec ses règles, ses mœurs, ses coutumes. On y parle toutes les langues. Les maçons de la Creuse et du Limousin sont bien représentés, mais il faut compter avec les Savoyards, les Italiens, les Bretons, les Flamands, les Picards, les Bouviers du Morvan. On trouve encore des femmes de mauvaise vie, comme on dit, qui rôdent le soir autour des baraques. Le général en chef de cette armée est monsieur l'ingénieur qui dirige avec de nombreux chefs de chantier qui eux-mêmes s'appuient sur la caste des compagnons du Tour de France. Comme dans une armée, il y a une avant-garde, c'est celle des débroussailleurs, des bûcherons, des coupeurs de bois, des artificiers qui font sauter à la mine les gros rochers. Viennent ensuite les cohortes processionnaires des terrassiers, actifs comme des fourmis, élevant les remblais avec la terre extraite des grandes tranchées qui écorchent les collines en de prodigieuses saignées. Parmi les viaducs ferroviaires de notre zone, il faut relever le viaduc de Bellac, à 9 arches dominant la vallée du Vincou. Il fut construit en 1880. Les chemins de fer départementaux, les tramways, vont conduire aussi à la réalisation d'ouvrages d'art importants. C'est le cas du viaduc du tramway de Rancon. Au début du XXe siècle, une ligne de tramway reliait Saint-Sulpice-les-Feuilles à Limoges en passant par Rancon. Sa construction nécessita la création de nombreux ouvrages d'art, comme celui que l'on trouve sur la commune de Rancon. Il mesure 138 mètres de long et compte 11 arches, dont la hauteur maximale atteint 23 mètres. Le tramway ayant disparu vers 1949, il perdit donc sa vocation première. De nos jours, il enjambe toujours la Gartempe, mais ses rails et ses avant-corps ont disparu et, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas se promener sur ce viaduc. Au travail comme au repos, les ouvriers chantaient. Voici cette chanson des poseurs de rails que nous interprète René-Louis Laforgue.
Petite et grande histoire de la basse marche.
Je suis un poseur de rails, comme l'était mon père. Je me suis mis au travail, quand la mort lui dit vieux frère. C'est du chemin que mon bonhomme de père avait suivi comme un chien jusqu'à son heure dernière.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche consacrée aux guets, passerelles, ponts et viaducs jadis en basse marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Jacqueline Lombois, de Germaine Bariteau, de Daniel Arnaud, du préfet Texier Olivier, de Claude Lacan, de Charles Sylvestre et du bulletin du Dolmen Club de Bellac. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au musicien Gilles Chabonat, au compositeur René Aubry, aux chanteurs Eva Brenner et René-Louis Laforgue, au groupe Maluzerne, La Chiffonie et Sous le pont que nous écoutons en ce moment.
Attachés à la ferraille, en cœur tout le monde braille.
Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Quiquempois et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous. Thank you.
Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région,